Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat au cours de cette émission puisque nous allons essayer d'évoquer des pistes, des solutions, des conseils pour dépasser de mauvaises expériences sexuelles. Derrière cette expression, mauvaise expérience sexuelle, on peut avoir essuyé des insultes ou remarques désobligeantes sur son corps, son apparence. On pense aux agressions verbales ou physiques qui peuvent perturber ou même provoquer un traumatisme, des images choquantes aussi comme celle de la pornographie parfois visionnée très jeune. Mauvaise expérience aussi après une première fois difficile, des critiques sur telle ou telle manière de faire l'amour après une rupture compliquée aussi. Certains d'entre nous n'arrivent pas à surmonter ces mauvaises expériences, d'autres restent bloqués. Nous attendons vos questions, vos témoignages. Si vous êtes dans l'impasse ou si au contraire ce mauvais souvenir est derrière vous, qu'est-ce qui vous a aidé? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'était un livre? Est-ce que c'était un psy, un thérapeute? On attend vos messages sur notre page Facebook. Et comme toujours, ce message s'adresse particulièrement à vous, mesdames, parce que pour l'instant, ce sont surtout des hommes, des messieurs, qui ont répondu et qui nous ont contactés au 33 1 84 22 75 75. Bien sûr, le docteur Catherine Solano, sexologue, est avec nous pour écouter vos témoignages, répondre à vos questions.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et une très
bonjour
bonne année
à nos auditeurs aussi.
Et une très bonne année puisque c'est notre premier rendez-vous de 2019. Alors, beaucoup de choses très différentes derrière cette expression, c'est ce que je disais tout de suite, avec bien sûr des pistes, des conseils. L'objectif commun, c'est de parvenir, on peut dire, à un déblocage.
Oui, c'est ça, c'est de dépasser une expérience sexuelle difficile. Et si vous voulez... C'est normal qu'on ait des mauvaises expériences dans la vie, qu'elles soient sexuelles ou autres. Et notre cerveau a les capacités de dépasser les mauvaises expériences. Sinon, on serait tous en dépression sur la planète. Donc,
ça veut dire qu'il est marqué par certaines choses, mais en même temps, il peut apprendre à passer à autre chose.
Exactement, exactement. Et je vais peut-être dire quelque chose, ça veut dire... Comment est-ce qu'on sait qu'on n'arrive pas à dépasser une mauvaise expérience, sexuelle ou pas d'ailleurs? C'est quand on pense à ce moment où on a fait cette mauvaise expérience, maintenant, quand on y pense maintenant, on se sent encore perturbé. C'est-à-dire qu'on se sent triste, on se sent en colère, on sent son cœur qui serre ou sa gorge qui serre ou quelque chose. On sent...
On va avoir des manifestations physiques de ce grand malaise.
Et émotionnel, voilà. Alors que si on y pense en disant « bon, bah, c'est du passé », en général, c'est qu'on l'a surmonté.
Alors, docteur Solano, on perd pas de temps, on retrouve tout de suite les auditeurs de Priorité Santé. On attend vos appels, vous, mesdames auditrices.
Priorité Santé sur RFI.
Et on commence par partir pour le Burkina, où l'on retrouve Étienne. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, on vous écoute Étienne.
D'accord. Quand je fais des rapports avec ma partenaire, je n'éjacule pas. Je pensais que c'était elle le problème. Et quand je change de partenaire aussi, c'est toujours le même résultat. Il faut que je regarde des films pornographiques amateurs et me masturber plus après. Mais à quelle solution vous pouvez me donner pour prendre du plaisir lors de mes rapports?
Cette question, docteur Catherine Solano, sur Étienne, donc, pour qui les relations sont plutôt compliquées.
Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 20 ans, on n'avait jamais ce problème. C'était très rare qu'en sexologie, on voyait un homme qui nous dise « je n'arrive pas jusqu'à l'éjaculation quand j'ai un rapport sexuel ». Maintenant, on en voit de plus en plus, et c'est un petit peu ce que vous dites, c'est lié à la pornographie. C'est-à-dire que... si vous voulez, le fait de regarder de la pornographie, c'est quelque chose qui est pas normal pour le cerveau. Et d'ailleurs, la pornographie, c'est une expérience sexuelle. Parce que ça crée des émotions, des réactions corporelles. Donc, c'est pas juste comme de regarder une image, c'est quelque chose, c'est une expérience sexuelle émotionnelle. Et du coup, quand on en regarde souvent, Si vous voulez, le corps d'un homme, il est fait pour avoir une érection et une éjaculation quand il voit une femme nue et qui réagissent facilement. Or, la pornographie, c'est anormal. Vous pouvez voir 25 ou 100 femmes nues dans la journée, voir des gens qui font l'amour avec 10 femmes ou je sais pas, plein de choses bizarres. Et du coup, votre cerveau s'habitue à ces images qui sont très fortes, il réagit très fort. Et ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il devient habitué à ces images. Et donc, il a besoin de plus en plus de niveau d'excitation pour avoir une éjaculation. Ce qui fait que quand vous êtes dans la vraie vie après, où il y a une seule femme, où c'est un horaire normal, où c'est une femme normale, et ben votre cerveau se dit « mais où sont toutes ces femmes qui font des choses étranges et tout ça ?» et il ne sait plus réagir. Donc en fait, la solution quand on n'arrive pas à avoir d'éjaculation et qu'on regarde beaucoup de pornographie, c'est d'arrêter complètement la pornographie pendant au minimum 3 semaines.
Mais aussi peut-être, Étienne, ce dont il parlait, c'était justement la masturbation, pornographie associée à la masturbation.
Voilà, parce que en fait, la pornographie, elle est... Les gens la consomment tous pour pratiquer la masturbation. Donc, le cerveau s'habitue à avoir, j'allais dire, une trajectoire du coït, si vous voulez, avec un support en image. Alors que normalement, naturellement, c'est avec le contact avec la peau, l'odeur, les mots que la personne dit, etc. Et du coup, c'est comme si on entraînait son cerveau à ne plus réagir qu'à la pornographie, parce que forcément, c'est beaucoup plus facile de regarder la pornographie tous les jours, ou 2 fois par semaine, ou même 10 fois par mois, que d'avoir des rapports sexuels aussi souvent. Donc, elle prend le dessus. Donc, la seule solution, c'est carrément d'arrêter complètement pendant au moins un temps.
Étienne, est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est que vous êtes relativement accro à ces images pornographiques, à ces images sexuelles parfois violentes. Est-ce que vous vous sentez prêt justement pour arriver à la plénitude physique d'arrêter ce type de consommation d'images sexuelles?
Oui, effectivement. Puisque il y a eu une partenaire avec qui voilà, je suis. Alors, elle m'a même conseillé même d'arrêter ça. Mm-hmm. Il y avait des images pornographiques dans mon ordinateur portable. Elle a pris l'appareil et elle a tout supprimé.
Mmh. Vous trouviez que c'était plutôt une bonne chose ou qu'elle se mêlait un petit peu de vos affaires?
Bon, au départ, voilà, je trouvais que voilà, c'était pas intéressant. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, elle veut m'aider en fait.
Ah ouais, c'est ça.
Mais là, souvent, voilà, je sens que voilà, ça fait mal, mais il faut l'accepter.
Ouais, vous avez raison, parce que si vous voulez, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous avez arrêté depuis un petit moment? Est-ce que ça va mieux sur le plan sexuel ou pas encore?
Bon, pas encore. Puis bon, quand j'ai arrêté également, voilà, ça ne vaut pas le truc une semaine même.
Ah oui,
même
c'est ça.
Même hier, même voilà, j'ai essayé voilà de frotter ça à la télé.
D'accord. Parce que, si vous voulez, souvent, c'est intéressant ce qu'on dit là et la question de Caroline, parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas vraiment addicts à la pornographie, qui en regardent beaucoup, mais s'ils veulent, ils sont capables d'arrêter. Vous voyez? Alors que quand on est addict au tabac, on voudrait arrêter, on n'y arrive pas. Donc, ils sont pas vraiment addicts, ils sont habitués plutôt qu'addicts. Et donc, ils arrivent très bien à arrêter. Et je constate que souvent, en 3 semaines, ça va déjà mieux. Ça peut ne pas suffire 3 semaines, mais souvent, c'est 3 semaines, 1 mois, ils me disent, souvent aussi, il me dit, j'ai des meilleures érections. Parce que vous avez un problème avec l'éjaculation, mais il y a des hommes qui, avec la pornographie, ont des problèmes d'érection parce qu'ils sont plus suffisamment excités quand ils sont avec leur partenaire. Alors, beaucoup d'hommes, une chose que j'ai appris de mes patients, c'est que moi, je disais, la masturbation, vous pouvez continuer, mais en pensant à des choses, pas en regardant des films. Or, il s'avère que quand on est habitué à regarder de la pornographie, même si on pratique la masturbation avec les pensées, ça va être des pensées pornographiques au début. Donc, c'est pas forcément bien, parce que c'est comme si on continuait à en regarder. Donc, l'idéal, c'est d'arrêter carrément la masturbation pendant un temps, quitte à recommencer après, mais avec des pensées plutôt vis-à-vis de votre partenaire et des choses de la vraie vie, et pas des images pornographiques. Donc, de rééduquer votre cerveau un petit peu.
Voilà, une petite période de sevrage aussi.
Voilà.
Voilà, Étienne. Très bonne journée pour vous au Burkina Faso. On va partir tout de suite pour le Burundi, où l'on retrouve Ali Massi. Bonjour, il est en ligne de Bujumbura. Ali Massi, on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour.
Docteur Catherine Solano, à votre écoute.
Ok, merci. Alors, moi, en fait, je me demande si l'effet de regarder les films pornographiques à bas âge peut avoir une influence sur la sexualité et quand on est déjà adulte. Mm-hmm. Parce que j'ai commencé à regarder ces films et depuis à l'âge de 15 ans, bientôt je vais me marier parce que j'ai 30 ans maintenant. Maintenant, mon inquiétude est que s'il y aurait des conséquences et en rapport avec mes désirs sexuels, si je vais me marier, en fait, s'il y aura des conséquences, parce que moi, j'ai commencé à les regarder à l'âge de 15 ans et maintenant, j'ai 30 ans.
Mmh. Alors, Alimassi...
Je peux signaler qu'actuellement, mes rapports sexuels durent au moins 5 minutes et en moyenne, c'est 10 minutes. Alors, est-ce que ça me suffit? Quand je vais me marier, cela me suffit?
Docteur Catherine Solano, plusieurs questions. Hein. D'abord, ouais. Est-ce qu'on peut se, entre guillemets, déshabituer de cette addiction pornographique quand ça a duré, comme c'est le cas pour Alimassi, plus de 15 ans? Et puis, une question qui revient souvent dans Priorité Santé sur la durée du rapport sexuel. Ouais. Donc, deux choses différentes. Hein.
Alors, disons que les conséquences de la pornographie, ça dépend un petit peu des hommes, mais ça arrive... Alors, ce qu'on sait, c'est que souvent... Enfin, les hommes qui regardent de la pornographie vont beaucoup plus mal juger leur partenaire. Ils vont trouver qu'elle est pas assez belle, qu'elle sait pas faire ce qu'il faut, qu'elle a pas les bonnes habiletés dans la sexualité. Ils vont trouver que c'est une partenaire pas terrible. Parce que ils comparent à la pornographie. Ça a été étudié avec des hommes qui ont regardé de la pornographie ou des séries. Pour comparer, pendant seulement quelques semaines et une heure par semaine. Donc, c'était pas pendant 15 ans, vous voyez. Donc, le risque, c'est de trouver que sa partenaire est pas terrible. C'est aussi d'être moins satisfait de sa sexualité, moins heureux dans sa sexualité. Donc, ça, c'est quand même drôlement dommage, dans un couple, d'avoir une consommation pornographique qui vous empêche d'être bien avec votre partenaire. Sur le plan mécanique de la sexualité, il y a pas mal d'hommes qui ont des problèmes d'érection quand ils regardent beaucoup la pornographie parce que leur cerveau se dit ben moi maintenant je suis habitué à regarder plein de femmes plein de films particuliers, si j'ai pas ça dans la vraie vie ben j'ai pas besoin de déclencher une érection, ça vaut pas la peine. En fait, j'ai un collègue, il dit un truc intéressant, il dit, en fait, la pornographie trompe le cerveau des hommes et leur dit, tu as une occasion de transmettre tes gènes, d'avoir des rapports sexuels avec une femme et donc d'avoir des enfants. Alors qu'en fait, ce sont que des images, mais comme on est héritier des hommes préhistoriques, à l'époque, il y avait pas de vidéo, donc le cerveau croit qu'il a une possibilité de descendance en voyant la pornographie, en fait. C'est un truc automatique. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a tendance, quand on regarde de la pornographie, à cliver la sexualité. C'est-à-dire que, à pouvoir avoir des rapports sexuels presque mécaniques, comme dans la pornographie, et à ne pas inclure l'amour, la tendresse, les câlins, l'odeur, le contact de la peau. On est habitué à des images et des sons, point. Et ça stérilise un peu le cerveau et l'imagination.
Moi, j'ai une autre question, justement, par rapport à cette question sur la pornographie. C'est ce rapport un peu de consommation. Il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de séduction. Ouais. On s'installe et on fait l'affaire. Ouais. Mais il n'y a pas du tout le relationnel, l'émotif n'est pas présent.
Oui, alors je suis d'accord avec vous, il y a ça. Et quand vous avez commencé à parler, Caroline, je me suis dit, elle va dire aussi ce qu'on a oublié de dire, enfin j'ai oublié, c'est la place de la femme. Parce que dans la pornographie, les femmes sont considérées comme des objets.
Sont souvent avilies.
Avilies, méprisées, c'est quelque chose d'horrible. Et donc, ça donne... Enfin, souvent, il y a des jeunes hommes qui se rendent même pas compte qu'ils ont un comportement irrespectueux envers une jeune femme parce qu'ils ont tellement vu de pornographie que ça leur paraît normal. Par exemple, des mots, des grossièretés, etc. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas du tout ça dans les rapports sexuels.
Donc, ce rapport de consommation à l'image, deuxième partie de la question d'Alimassi, quelle durée pour un rapport sexuel? Peut-être qu'il y a un rapport entre cette cause et cette question de dire que les choses sont formatées, normées, qu'elles doivent correspondre à quelque chose finalement, un petit peu pour tout le monde pareil.
Oui.
Et ce n'est pas vrai.
Donc la durée d'un rapport sexuel, ça dépend ce qu'on appelle un rapport sexuel. On estime qu'en moyenne, ça a été étudié, c'est 20 minutes, ce qui est assez peu. 20 minutes, c'est pas à partir de la pénétration, c'est à partir du moment où on s'embrasse, on commence à se déshabiller, à se faire des câlins. L'idéal pour une femme, c'est 20 minutes de préliminaire, c'est-à-dire 20 minutes de baisers, de caresses, avant d'aller au niveau de la zone sexuelle. Et au niveau de la pénétration elle-même, on considère qu'à partir du moment où la pénétration dure plus de 3 minutes, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'un homme qui peut faire durer 3 minutes, il peut faire durer 5 ou 10 s'il en a envie, s'il fait des pauses, il ralentit, etc. Donc c'est surtout quand c'est en dessous d'une minute de pénétration que là, on considère qu'il y a vraiment un problème d'éjaculation précoce. Entre 1 et 3 minutes, c'est un peu entre les deux, quoi. Ça dépend.
Ali Massi, j'ai une question. Vous disiez, est-ce que ça peut avoir, ce visionnage de films pornographiques, une influence sur ma vie sexuelle? Est-ce que ça veut dire que vous avez envie d'arrêter de regarder ces films?
Oui, j'ai l'envie d'arrêter ces films parce que si moi je les regarde, c'est parce que je suis célibataire et parfois quand je marque des partenaires, je les regarde pour me soulager.
Oui, je voulais intervenir. Excusez-moi, je vous coupe parce que, en fait, si vous voulez, même si on n'a pas de partenaire, on n'a pas besoin de regarder des films pornographiques. On peut pratiquer la masturbation en pensant, je sais pas, à sa copine, à qui vous voulez, à ce que vous voulez, mais on a un cerveau qui est plein d'imagination. C'est pour ça qu'il y a autant de romans et de séries, c'est des gens qui les inventent. On n'a pas besoin d'images pornographiques.
On le voit aussi avec le rêve.
Oui, dans les rêves, on peut avoir des rêves érotiques, on n'a pas besoin de visionner un film en dormant.
Ali Massi, est-ce que vous avez une autre question ou est-ce que la réponse de Catherine Solano vous a satisfait?
Oui, je suis vraiment satisfait de cette réponse. Merci beaucoup, docteur.
Et on vous souhaite un beau mariage et d'être très heureux, pas seulement sur le plan sexuel d'ailleurs.
Bon, bah, très bonne journée à vous à Bujumbura. Et on va partir tout de suite pour le Congo-Brazzaville, pour Pointe-Noire, où nous retrouvons Juvet. Juvet, bonjour.
Oui, bonjour, docteur Catherine Solano.
Bonjour.
On vous écoute, Juvet.
En fait, ça fait un bout de temps que j'entretiens une relation amoureuse avec une amie. Mais malheureusement, pendant nos contacts sexuels, j'accuse très très vite et de son côté, elle ne se dit pas d'accord. Et voilà, la relation risquera même de se rompre d'ici peu. Et cela, une semaine que nous ne sommes plus en contact. Moi, je suis très inquiet. Et réellement, si cela est dû à une maladie ou bien c'est lui a quelque chose d'autre, voilà pourquoi j'aurais besoin que vous me donniez un peu plus de détails sur ça.
Juvet, vous êtes inquiet, mais est-ce que vous êtes aussi blessé des commentaires qu'a fait votre amie sur les relations sexuelles que vous entretenez avec elle?
Et en tout cas, très très blessé, mais vu que c'est l'amour qui couvre un peu tout, bon, on essaie d'y faire avec. Mais quand même, j'ai le stress de partout là où je me retrouve, je sens vraiment une solitude. Pas bien vraiment.
Malaise à cause de cette relation compliquée, docteur Catherine Solano.
Oui, et puis je rajouterais que c'est vrai que quand un homme est stressé, l'éjaculation elle risque encore d'être plus précoce parce que le stress a tendance à accélérer l'éjaculation. Donc c'est vraiment ça. Je dis ça pour c'est pas pour vous en rajouter une couche. Je vais si on peut dire c'est plutôt pour les femmes qui nous écoutent. La meilleure solution pour aider son partenaire et aider son couple, c'est d'être détendu et de se dire on va y arriver ensemble à faire mieux parce qu'on a toute la vie devant nous, voyez.
La délicatesse et le respect, c'est des deux côtés.
C'est des deux côtés, voilà, parce qu'on parle des fois des hommes qui n'ont pas assez de respect quelquefois pour les femmes, mais c'est vrai dans les deux sens, exactement.
Est-ce que vous arrivez à en parler, Juvet, avec votre amie, des remarques qu'elle vous fait, cela peut vous blesser? Est-ce que vous avez essayé, justement, d'aller par la communication, d'aller par la discussion, dans des moments qui ne sont pas forcément des moments de tension, pour en parler entre vous?
Oui, en fait, je prends souvent du temps d'en parler avec elle. Je la ramène quand même à la raison, mais elle me dit qu'elle n'est pas du tout d'accord parce qu'avec les vieilles relations qu'elle a eues entretenues, on la satisfaisait, mais par contre, quand elle va avec moi, vraiment, je suis impuissant, c'est ce qu'elle dit même. Au moment, ça me fait très mal et c'est peut-être déjà la seconde fois.
Et docteur Catherine Solano, c'est très blessant aussi de comparer à des expériences précédentes.
Et puis c'est blessant. Puis en plus, moi, à votre place, je lui dirais, mais alors ils sont où tes anciens partenaires si tu étais aussi satisfaite? Pourquoi n'es-tu plus avec eux? Et en plus, si vous voulez, vous dites que vous l'aimez, Eh bien, je me dis, moi, un homme qui vous aime, c'est quand même extrêmement précieux et ça vaut la peine d'investir un petit peu d'énergie pour améliorer sa sexualité plutôt que d'en changer, de trouver quelqu'un qui voudra peut-être pas un clou et qui ne l'aimera pas, voyez. Donc, je voulais dire ça pour vous dire que vous êtes un homme qui avait l'air de vouloir une relation profonde et de qualité. Et ça, j'espère que vous avez trouvé quelqu'un qui va comprendre à quel point c'est précieux. Et donc... À part ça, je vais quand même vous donner des conseils pratiques par rapport à l'éjaculation précoce. Le premier qui est important à savoir, tant pour les hommes que pour les femmes, c'est que l'éjaculation est presque toujours précoce chez un homme quand les rapports sont espacés. C'est-à-dire quand on n'habite pas ensemble, qu'on se voit une fois tous les 15 jours, eh ben c'est très difficile de ne pas avoir une éjaculation précoce. Donc, c'est la première chose. Peut-être que votre ami, si vous vous voyez pas très souvent, enfin, je parle de se voir avoir des rapports sexuels réguliers, il faut avoir 2 ou 3 rapports sexuels par semaine pour réussir à changer un réflexe quand il est trop rapide. Hein, est-ce que ça, vous le saviez?
En fait, c'est une première nouvelle pour moi. Ben, comme ça a été dit par vous, les spécialistes, je vais peut-être commencer à l'appliquer dès à présent. Mmh.
C'est très important parce que, si vous voulez, moi, des fois, je vois des hommes qui me disent « j'ai toujours eu une éjaculation précoce ». En fait, ils n'ont jamais eu une partenaire, soit qui habitait près, soit une partenaire régulière. Et en fait, ils n'ont jamais eu, pendant un mois de suite, 2 ou 3 rapports par semaine. Et une fois que ça se produit, ben, ils se disent finalement « maintenant, ça dure beaucoup plus longtemps et ça va ». Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux vous conseiller... C'est par rapport à la masturbation. Alors ça va être très concret, c'est que, si vous voulez, il y a des hommes qui découvrent la masturbation à l'adolescence, c'est banal, mais qui ont peur d'être surpris quand ils sont adolescents, donc ils vont aller très vite jusqu'à l'éjaculation. Le problème, c'est que si de 15 à 20 ans, mettons, si c'est 20 ans qu'on a le premier rapport sexuel, pendant 5 ans, on a des, je vais pas dire des rapports sexuels, mais des masturbations qui sont très rapides, bah, on entraîne son corps à apprendre à aller vite. Et le jour où il a un rapport sexuel, bah, il fait pareil, il va vite. Donc, on peut faire une espèce de rééducation tout seul, en s'entraînant à aller lentement, en faisant des pauses, en respirant, de manière à habituer son corps à aller plus doucement, ce qui fait que quand on aura des rapports sexuels par la suite, bah, ça sera plus lent. J'insiste sur le fait que ça marche pas en 2 ou 3 fois. Avec mes patients, je dis souvent, pour apprendre à conduire, il faut 20 heures de conduite. Alors qu'on comprend instantanément qu'il faut débrayer et tourner le volant et regarder dans le rétroviseur.
La pratique.
La pratique, le corps met plus de temps à apprendre que le cerveau à comprendre. Donc il faut insister, recommencer et ça finit par marcher.
Et faire preuve de patience des deux côtés.
Voilà, des deux côtés, exactement.
Juvet, très bonne journée à vous. À Pointe-Noire, on... Un autre auditeur hein, qui vient du Congo, c'est Habib qui est avec nous. Habib en ligne, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Docteur Catherine Solano est à votre écoute.
Voilà. Moi, j'ai, contrairement aux autres auditeurs, moi je suis marié. Mm-hmm. Je ne me masturbe pas. J'ai des difficultés puisque j'ai vu elle a essayé de décrire un peu, j'ai suivi avec un peu d'attention. Je pense qu'elle a dit moins d'une minute par rapport à l'érection. Mm-hmm. Et bon, moi j'ai des difficultés au cours des rapports. Je n'arrive pas à tenir les 3 minutes, je pense qu'elle avait dit, et souvent ça fait des objets de frustration par rapport à l'autre, et souvent même des menaces parce que l'autre se sent frustré. Bon, il y a des moments où on essaie de discuter ensemble pour voir dans quelle mesure on peut essayer de s'entendre, et j'avoue que souvent c'est difficile. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des produits ou des conseils qui puissent me permettre de pouvoir avoir une sexualité beaucoup plus épanouie?
Donc arrêter cette situation d'insatisfaction qui peut déboucher sur des disputes dans le couple.
Et là, est-ce que vous avez des problèmes d'érection, que vous allez perdre votre érection, ou est-ce que c'est plutôt une éjaculation trop rapide que vous avez, ou les deux?
Denis, en fait, je n'arrive pas à tenir dans le temps.
Direction.
Bon, vous avez parlé de préliminaires au moins 20 minutes.
Oui.
Même si je fais ces préliminaires-là en 20 minutes, au moment de la pénétration,
vous perdez votre érection à ce moment-là.
Voilà.
Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Et vous avez quel âge?
47.
47? Ok. Alors, il y a déjà y a plein de choses dans tout ce que vous dites. La première, je vais parler médicale. C'est que quand on veut garder une bonne érection toute sa vie, le plus longtemps possible, il faut pas fumer. Est-ce que vous fumez?
Non.
Ça, c'est bien. Bravo. Et alors, deuxième chose, il faut faire de l'exercice physique. Parce que je vais le dire pour les auditeurs, mais quand on fume, on a deux fois plus souvent des problèmes d'érection qu'un non-fumeur. Donc là, vous êtes du bon côté. Est-ce que vous faites de l'exercice physique?
Marcher, d'accord, mais non.
Pas beaucoup. Alors, c'est très important. Les hommes qui font du sport ont deux fois moins souvent de problèmes d'érection. Donc, sur la durée, c'est bien de faire... L'idéal, si on fait de la marche, c'est une heure par jour. C'est beaucoup. Et si on peut, c'est de faire du sport. Donc, je vous incite à en faire. Troisième chose, c'est le poids. Je ne sais pas si vous êtes en surpoids, mais quand on est en surpoids, on a deux fois plus souvent de problèmes d'érection qu'un homme qui a un poids correct. Je parle d'un surpoids important, je ne parle pas de 3 ou 4 kilos de trop à 40 ou 50 ans.
On peut dire déjà une bonne condition physique générale.
Voilà, oui. Est-ce que vous êtes en surpoids, vous?
Non.
Donc il y a juste l'exercice que vous pouvez améliorer. Bon, la deuxième chose, c'est que on a des médicaments maintenant qui améliorent l'érection. Je pense que pour vous, ça serait très très bien. C'est de la famille du Viagra, hein, du sildénafil. Maintenant, c'est en générique, donc ça coûte pas très cher, même quand on les achète en pharmacie. Les prix ont beaucoup baissé depuis que c'est des génériques. Et donc, ça pourrait vous aider beaucoup parce que vous êtes quand même en bonne condition physique. Donc, je pense pas que c'est un problème médical. Et que il y a un élément qui vous aide pas, c'est que votre femme râle. Donc, quand on a une femme qui râle, c'est stressant. Et donc, plus on est stressé, plus ça bloque l'érection. Et donc, le fait de prendre un médicament qui améliore vos érections, à mon avis, ça vous détendrait et vous reprendriez confiance. Alors, si vous en prenez, il faut une prescription de médecin. Je sais pas dans votre pays s'il faut une prescription de médecin, mais normalement, il en faut. Ça s'achète en pharmacie. Et ce que je vous conseille, mais qui est très important, c'est qu'il faut en prendre avant chaque rapport sexuel. Pas une fois sur deux ou sur trois. Avant chaque rapport sexuel, parce que c'est comme ça qu'on reprend confiance. Parce qu'au bout de 10 fois, à la limite, vous allez l'oublier, le médicament, parce que ça se sera bien passé. Si les hommes en prennent une fois oui, une fois non, la fois ils ne prennent pas, ils se disent est-ce que ça va marcher, et le stress revient. Alors que le fait d'en prendre tout le temps pendant un petit moment, on reprend confiance et c'est reparti et ça va mieux.
Mais on peut dire quand même, Catherine, pour peut-être que Habib le pense, je ne sais pas, il pourra nous le dire après, certains hommes disent, si je me fais aider avec un cachet, est-ce que je suis encore vraiment un homme? Il y a des gens qui se posent cette question.
Oui.
On doit vous le dire en consultation. Moins qu'avant, peut-être.
Je pense qu'ils sont tellement contents que ça marche. Mais alors, c'est que non, on me demande est-ce qu'il y a une accoutumance souvent, par exemple. Et alors, il n'y a pas d'accoutumance avec ces médicaments. Ou s'il y en a une, elle va être psychologique, c'est-à-dire qu'on a peur que ça marche pas. Mais il n'y a pas d'accoutumance physique. Et la plupart des hommes prennent, par exemple, 50 mg de sildénafil. Je leur dis quand ça va bien, vous allez en prendre 25. Vous pouvez même couper le comprimé en 4. Et puis après, vous allez arrêter. Et surtout, gardez-en dans votre table de nuit, parce que comme ça, souvent ça rassure. Il y en a, il me dit, j'en ai depuis 4 ans dans ma table de nuit, je ne le prends plus, mais je sais que si ça ne va pas, j'ai une solution.
Habib, vous voulez réagir?
Oui, je voulais savoir si par rapport au niveau de l'aide médicale, au niveau des pharmacies que vous venez de préconiser, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce que je suis un peu méfiant.
Oui, alors très bonne question aussi. Au médicament,
puisque après, est-ce que j'aurai pas le retour?
Un effet secondaire néfaste, alors.
Non, parce que en fait, ces médicaments sont vasodilatateurs. Ça veut dire que ça dilate les artères. Donc, ça les dilate au niveau du pénis, c'est le but, mais ça les dilate aussi ailleurs et c'est pas dangereux pour le cœur comme on le disait des fois au début, pas du tout, au contraire ça dilate aussi les artères du cœur, ça aurait même tendance à faire baisser un tout petit peu la tension artérielle, ce qui est plutôt bénéfique en général, donc non, il n'y a pas beaucoup d'effets de contre-indications à ces médicaments. Comme effet indésirable, avec le sildénafil, des fois les hommes voient un voile bleu, mais c'est assez rare. Moi, je l'ai vu deux ou trois fois. Et puis, dès que vous arrêtez, bah, ça s'arrête. Si jamais vous le supportez pas bien, alors il y a des hommes qui ont des bouffées de chaleur. Tout d'un coup, ils ont chaud parce que ça dilate les vaisseaux du visage aussi. Si vraiment vous vous dites, moi, ça me gêne trop, bah, vous arrêtez, puis c'est tout. Donc, comme ça agit 7 heures, vous le prenez. Si jamais vous le supportez pas bien, bah, vous le reprenez pas, puis c'est tout. Hein.
Voilà pour ces conseils, hein, Habib. On vous souhaite une très bonne journée. On va partir pour le Gabon, retrouver une auditrice, c'est Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous écoute, le docteur Catherine Solano vous écoute.
Ça fait plus d'une fois, j'écoute votre émission, ça me fait vraiment plaisir. J'ai 57 ans, je suis mère de 7 enfants, mais j'entends mes amis parler quand elles ont des rapports avec des hommes, elles disent c'était très bon, c'était bien. Moi, j'ai jamais senti de plaisir avec un homme. Mmh. Jamais. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a qui me disent, non, ça veut dire que tu es frigide, tout et tout. Je dis, ah bon? J'entends souvent le docteur Catherine Solano parler à la télé, à la radio. Je vais vraiment lui poser la question, c'est quoi ça veut dire frigide? Je sens aucun plaisir. Quand un homme éjacule, je sens pas du tout. Mmh. L'éjaculation, c'est seulement que quand je suis mouillée, quand ça coule, que je sens que l'homme a éjaculé.
Okay.
Ça, c'est la première question. Mmh. Et la deuxième question, je suis monoposée depuis le 13 novembre 2013. Et on m'a dit que j'ai des bouffées de chaleur, des sensations bizarres sur les pieds, que ça allait passer d'ici 2-3 ans. Mais ça fait bientôt 5 ans, ça passe pas du tout. Oh là là, je dors très 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 mal les nuits. Chaque heure, je suis réveillée les nuits, j'ai des bouffées de chaleur terribles, d'avoir des sensations bizarres sur les pieds, avec des sueurs comme si on me versait l'eau sur la tête.
Alors, deux questions très différentes. On va peut-être poser d'autres petites questions pour en savoir plus sur ce qui vous arrive. D'abord, peut-être, on va et parler tout de suite des questions liées à la ménopause et après on parlera du plaisir féminin. Juste une petite question, Sonia, vous nous parlez de ces symptômes associés à signes de la ménopause. Est-ce que vous avez été suivie pour ça? Est-ce que vous prenez un quelconque traitement?
Non, j'ai pas suivi. Je suis allée voir des gynécologues, elles m'ont dit de prendre des médicaments, comme j'ai entendu à la télé, à la radio, plus d'une fois que les médicaments de ménopause, quand on prend, ça donne le cancer, ben, j'ai refusé de prendre.
Docteur Solano.
Alors déjà, les bouffées de chaleur, c'est fréquent à la ménopause. Et alors, je commence par vous dire, à côté du traitement hormonal, un des meilleurs traitements, c'est l'exercice physique. Il y a des études qui montrent que vous faites du footing ou quelque chose comme ça 3 ou 4 fois par semaine, il y a beaucoup moins de bouffées de chaleur. Est-ce que vous faites du sport déjà?
Non, je fais pas du sport. Je marche beaucoup sur mon tapis. J'ai un tapis de marche à domicile.
Ouais.
Je marche beaucoup. Je marche chaque jour une.
Vous faites quand même de l'exercice. Ça c'est bien. Donc, mais je dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est vraiment quelque chose d'important.
Vous disiez à côté du traitement hormonal, mais Sonia l'a dit, elle ne prend pas de traitement hormonal.
Je veux dire, c'est une chose si on veut pas prendre de traitement hormonal, au moins faire du sport. Et le traitement hormonal, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une augmentation des cancers, mais il y a une diminution d'autres cancers. Et surtout, on sait que quand on le prend pendant une durée limitée, mettons par exemple 4-5 ans, ça aide déjà énormément à passer ce cap et à bien dormir, etc. C'est quand même... Donc ça vaudrait peut-être le coup au moins d'essayer ce traitement. Parce que si vous le prenez pendant 1 mois ou 2 ou 3 mois au moins pour essayer, vous allez voir si vous vous sentez vraiment mieux ou pas. Si vous... Alors, déjà, il y a ce traitement. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi mettre des œstrogènes par voie vaginale. C'est-à-dire, ce sont pas des traitements hormonaux en cachet, en crème sur la peau, etc. Ce sont des crèmes qu'on met à l'intérieur du vagin et sur la vulve. Ça améliore l'état de la vulve et ça passe un petit peu dans la circulation. Donc, comme on le met le soir en général, ça améliore souvent le sommeil. Moi, je vois ça chez mes patientes. Donc, ça vaudrait quand même le coup, je pense, pour vous d'essayer le traitement, même si vous vous dites, je vais pas le prendre à vie, peut-être.
Déjà, hein, prendre en charge, prendre, consulter pour reposer les questions sur ces symptômes, ces signes de la ménopause.
Et voir et insister auprès du médecin, lui dire j'ai peur que ça soit dangereux pour moi, vous pouvez le dire au médecin, et il vous dira, bah, y a des femmes qui ont des contre-indications, hein, c'est sûr, on peut pas en donner à tout le monde, mais si vous n'en avez pas et que vous êtes très gêné dans la vie de tous les jours, c'est dommage parce que les sueurs et les bouffées de chaleur, ça c'est...
En tout cas, il faut pas se fier forcément à ce qu'on entend comme ça à la télé ou sur Internet et qui peuvent nous donner des peurs sur des choses, mais bien aller voir un médecin qui parlera au cas par cas.
Voilà, exactement, exactement.
Alors la deuxième question de Sonia, c'était sur ce sentiment de ne pas éprouver de plaisir et ses interrogations sur qu'est-ce que c'est d'être frigide.
Voilà, alors déjà je vais répondre à une petite chose précise. Sonia, vous disiez, je ne sens pas quand un homme a une éjaculation, je sens rien, c'est seulement quand ça coule après. Eh bien, bienvenue au club, parce que c'est comme ça pour quasiment toutes les femmes. Il y a quelques femmes qui le sentent un petit peu, je ne vais pas vous dire le contraire, mais la plupart des femmes sentent absolument rien. Donc là, vous êtes tout à fait normal de ce côté-là.
Ce n'est pas ça de ressentir du plaisir, c'est pas ressentir ce moment du rapport sexuel, en tout cas.
Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez du désir sexuel ? Est-ce que vous avez envie de faire l'amour ?
Souvent pas, du tout.
Souvent pas ? Et est-ce que c'est que depuis votre ménopause ou vous n'avez jamais eu envie ?
J'ai jamais eu envie, je veux pas avoir plaisir, je me dis bon, pff, qu'est-ce que toutes les femmes font l'amour avec les hommes, je sens aucun plaisir, aucun.
Voilà, parce que alors souvent quand on n'a ni désir ni plaisir, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part, vous voyez ? Souvent, comme c'est le sujet de l'émission, mais c'est pour ça qu'on l'a fait, souvent lié à des mauvaises expériences par rapport à la sexualité, par rapport à des fois c'est l'éducation, on nous a expliqué que la sexualité c'était dégoûtant, c'était sale, c'était pas bien, donc forcément ça donne pas tellement envie, ou on a eu une mauvaise expérience, des remarques, etc. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de nous raconter si vous voulez pas, mais est-ce que quand je vous dis ça, ça évoque certaines choses pour vous?
Oui, je vous ai entendu plus d'une fois, puisque je suivais avec l'autre qui n'est plus là, Claire Ledon. J'aimais beaucoup votre émission et je vous entendais souvent. Et par rapport à vos dits, j'ai suivi que vraiment, toute jeune, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai été plus d'une fois violée. Ça m'a bloquée.
Ah oui, bah oui.
Ça m'a vraiment bloquée. Je voulais vraiment plus sentir un homme. Mais bon, même mon premier enfant avec lui, le monsieur avec qui j'ai eu l'enfant, c'est encore d'un viol. Mais puisque j'étais encore jeune, tout, je savais rien de tout ça. Et quand après tout ça, j'ai dit, il y a beaucoup de choses que je savais pas.
Ah oui, voyez. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas frigide, mais que votre cerveau, si vous voulez, quand on subit un viol ou une agression très grave, le cerveau se dit, je ne veux plus recommencer à vivre ça une autre fois. Et donc, il essaye de vous donner, de bloquer le désir pour que vous ayez plus de rapport sexuel, pour ne pas souffrir. Donc, en fait, votre cerveau, il cherche pas à vous embêter, il cherche à vous protéger. Parce qu'il a peur que ça recommence. Vous voyez, c'est ça. Et donc, quand on a vécu des choses comme ça, le traitement, c'est de faire une thérapie pour expliquer à votre cerveau, si vous voulez, pour lui permettre de dépasser ça et qu'il se rende compte que c'est du passé et que maintenant, si vous êtes en couple avec un homme qui vous aime, il ne risque rien dans ce cadre-là. Il peut se laisser aller au plaisir et avoir du désir, voyez.
Sonia, vous aviez compris des choses en écoutant l'émission quand Claire Edon la présentait. Vous comprenez ces choses quand on vous raconte cela. Est-ce que vous en avez parlé avec votre conjoint?
Pas du tout. Pas du tout.
Est-ce que pour vous c'est possible d'en parler avec lui, de dire voilà, quand on fait l'amour, j'ai pas de plaisir, souvent même d'ailleurs j'ai pas envie. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il pourrait vous entendre ou est-ce que vous, c'est trop dur pour vous d'en parler aujourd'hui?
Non, c'est vraiment, on a une instance de divorce d'ailleurs, il est allé ailleurs, on a divorcé, il est allé ailleurs, il s'est remarié parce que il ne me comprenait pas du tout. J'étais toujours bloquée, mais il ne comprenait pas. Mais malgré ça, on a eu 4 enfants.
Et si demain, vous rencontrez un homme qui vous plaît, parce que la séduction, c'est important, quels que soient nos âges, eh bien, est-ce que vous croyez que vous pourriez, justement, parler de vous, de ce que vous êtes vraiment, de ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie, et les épreuves que vous avez traversées? Est-ce que vous pensez qu'en partant justement sur une relation de vérité, de sincérité, ça pourrait vous aider à justement avoir des bons moments avec cette personne?
Je crois.
Et je vais insister là-dessus parce que moi j'ai un patient que j'ai vu il y a pas longtemps, un homme super, qui me dit, vous savez, moi j'ai une copine il y a quelques années qui avait été violée et elle m'en a parlé Et au début, on pouvait pas avoir de rapport sexuel, mais j'ai apprivoisé petit à petit. Ça a mis bien un an, il me dit, en faisant des petites caresses, juste en l'embrassant au début. Et à la fin, elle a fini par pouvoir avoir du plaisir et être bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est tombée sur un homme qui a su l'écouter, et bien sûr parce qu'elle a su en parler. Vous voyez ? Et à votre âge, c'est pas du tout trop tard, hein ? Je vous le dis.
D'accord. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée. Ça m'est vraiment, j'ai été vraiment très touchée. J'ai compris. Je serais adorée d'avoir. J'ai déjà quelqu'un. Je crois que je lui en parlerai parce que j'étais très réticente malgré tout ce qu'il me disait. J'avais peur. Je me suis dit, ce sera encore pareil. Ce sera la même chose. Ce sera encore les déceptions. Mais j'ai bien compris le message.
Mais si vous avez, si vous avez confiance en lui, si c'est quelqu'un de confiance, vous pouvez lui dire des choses si vous sentez vraiment en confiance avec cette personne.
Et puis, ce qui est important aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout lui dire. Il faut lui dire ce que vous vous sentez capable de dire et ce que vous le sentez capable d'entendre. Parce que des fois, il suffit de quelques petites choses pour que la personne comprenne. On n'a pas besoin non plus de donner des détails. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas vous sentir obligé d'en faire trop non plus.
D'accord. Mm-hmm.
On vous souhaite une très bonne journée, merci. Sonia. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Au revoir.
Très bonne journée à vous. On part pour le Cameroun, pour Yaoundé, où l'on retrouve Hassan. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour, bonjour docteur, bonjour Caroline Parier.
On vous écoute, Hassan. Vous aussi.
C'est gentil.
Vous aussi, on vous écoute.
Merci. Bon, justement, l'objet de mon intervention, c'est rapport à la situation que vit ma copine.
Mm-hmm.
En effet, ma copine a été victime d'un viol dans les années 2010.
Mm-hmm.
Et suite à cet événement douloureux, jusqu'ici, elle ne s'en est pas remise, malheureusement. Du coup, lorsqu'on se retrouve en intimité, dans une même chambre, elle ne me laisse pas reprocher d'elle. Elle me repousse et elle semble être toujours frustrée par les souvenirs de son viol.
Mm-hmm.
Je me demande donc, docteur, comment je dois m'y prendre pour l'aider à surmonter ce calvaire psychologique qui la hante jusqu'alors. C'est ça ma préoccupation, docteur.
Mm-hmm. Docteur Solano.
Alors, écoutez, on est heureuse d'entendre un homme qui nous pose cette question parce que, quand même, c'est
il y a beaucoup de respect.
Formidable.
Il y a beaucoup
de
respect.
La première chose, c'est que vous pouvez peut-être l'aider à consulter si vous pouvez trouver vers où vous êtes un psychologue ou une psychologue. Des fois, c'est plus facile avec une femme parce que elle aura moins peur d'une femme, voyez, par réflexe que d'un homme. Donc, ça pourrait déjà l'aider beaucoup. Actuellement, on fait quelquefois des traitements où on demande à la personne de raconter ce qui lui est arrivé en ayant pris un médicament qui est un bêta-bloquant, parce que ça aide le cerveau à classer cet événement. Bon, ça c'est le côté psychothérapie. Et de votre côté à vous, ce qui est important, c'est de lui dire « Écoute, je ne ferai jamais rien si tu n'es pas d'accord. » Qu'elle sache que si elle vous dit « Stop », vous allez arrêter. Parce que c'est quand on dit ça qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc l'idéal, ça serait d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de lui dire par exemple, je ne sais pas ce qu'elle vous autorise à faire ensemble, mais de dire « Est-ce que je peux t'embrasser ? Je n'irai pas plus loin, je te promets. » Et peut-être que vous allez avoir deux ou trois baisers plus profonds et lui dire « Écoute, est-ce que tu accepterais que je te fasse un massage des jambes, par exemple ? Et tu gardes un short, par exemple, de manière à ce que je te masque jusqu'au genou, je n'irai pas plus loin. Et si à un moment tu te sens mal, tu me dis stop. » Ce serait pour aller à des pour aller petit à petit à des massages de couple où vous serez déshabillé, mais où au début elle garderait son soutien-gorge et sa petite culotte pour qu'elle soit certaine que vous n'allez pas aller plus loin que ce qu'elle peut supporter. Et comme ça, si vous voulez, c'est de réapprivoiser son corps petit à petit. Peut-être que vous pourriez même lui expliquer ça, lui dire, tu sais, ton corps, il a peur qu'on lui fasse du mal. Ça se comprend vu ce qu'il a vécu. Moi, je ne veux jamais te faire du mal, mais je voudrais l'apprivoiser. Est-ce qu'on peut commencer par les pieds, par les mains, etc.
Hassan, est-ce que votre ami est au courant que vous avez téléphoné à l'émission et que vous avez demandé justement ses conseils pour réussir à reprendre lien avec elle?
Oui, effectivement. Bon, elle aussi, elle est à la faculté de la médecine. Bon, je sais pas, je l'ai vraiment informé depuis hier, donc je pense qu'à cette heure-ci, elle serait à l'écoute. Donc, bon, c'est-à-dire, nous sommes à la recherche de cette remédiation tous ensemble, quoi.
Vous êtes recherché ensemble une solution.
Ouais.
Effectivement, c'est ça. Puisque j'ai utilisé plusieurs moyens, bon, je n'ai pas reçu. Donc, vraiment, je suis fier de participer à cette émission pour avoir vraiment une solution très convaincante envers Dr Solano.
Est-ce que votre amie semble disposée justement à aller en parler à un thérapeute, à quelqu'un, ou elle a un petit peu de la retenue par rapport à ça?
Bon, je sais pas. J'ai aucune idée. Je ne l'ai pas demandé.
Peut-être qu'elle vous en parlera après justement avoir entendu l'émission. Vous pourrez reprendre cette discussion à ce sujet ensemble.
Effectivement.
Bon, vous souhaite une très bonne journée à San, hein, très bonne journée à Yaoundé. On retourne à Brazzaville au Congo où nous sommes en ligne avec Chris Matt. Chris Matt, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Catherine Solano.
On vous écoute.
Oui, encore en fait, j'ai vécu un petit truc qui m'a tellement bouleversé. Il se trouve qu'on a l'habitude, que j'ai l'habitude de faire l'amour avec ma petite amie, ça se passe bien. Je la mène toujours au niveau où elle a toujours désiré. Comme quoi, lui donner un orgasme et tout. Et depuis le samedi, donc la dernière fois, l'avant-dernière fois qu'on a fait l'amour le samedi, on a fait l'amour, mais j'avais constaté qu'elle n'avait pas eu d'orgasme. Donc le dimanche, je lui en ai parlé, et je lui en ai parlé. Ah, mais j'ai constaté que tu n'as pas eu d'orgasme hier. Elle me dit que si j'en avais, tu n'as pas remarqué. Je dis, mais d'habitude, quand tu as un orgasme, je le sais, mais hier, en tout cas, je n'en ai pas eu. Et puis, c'est passé. Donc, on reprend le lundi. Le lundi, je n'étais pas vraiment bon, puisque je devais partir à l'hôpital ce matin-là, je ne me sentais pas bien. Et puis, elle me force, mais chérie, essayons quand même pour voir si ça marche ou pas, si j'aurai un orgasme ou pas. Et je ne voulais pas, mais elle a insisté. Et puis, bon, on monte au lit, on a essayé, et puis, j'ai constaté qu'elle avait eu d'orgasme. Mais elle avait plus de simulation. Même avant que nous puissions avoir un orgasme, elle avait fait une simulation. Et à la fin, elle continuait toujours à faire des simulations, si bien qu'elle avait eu un orgasme. Puisque j'avais constaté que les contractions étaient différentes de celles d'habitude quand elle a un orgasme. Et moi, ça m'avait vraiment choqué, Donc depuis lors, je n'ai plus en fait envie de faire l'amour avec elle. Mais elle ne le sait pas encore. Donc c'est ça mon problème.
Docteur Solano,
vous avez l'impression qu'elle vous ment ou qu'elle vous trompe, c'est ça, si elle simule à un moment, c'est ça?
Elle ne me trompe peut-être pas, mais la simulation, moi je me dis qu'elle est en train de faire semblant qu'elle a un orgasme alors qu'elle n'en a pas.
Oui, mais c'est peut-être aussi... Elle essaye peut-être de vous rassurer par rapport à la dernière fois, non, c'est pas ça?
Et ça ne m'arrange pas du tout. Parce que moi, ce que je veux, c'est
la vérité.
Oui, mais alors, je vais vous expliquer plusieurs choses. La première, c'est que vous dites, j'ai plus envie de faire l'amour avec elle, ça serait dommage. Il vaut mieux lui expliquer, lui dire, écoute, moi, j'ai pas tellement envie que tu simules. Si une fois tu n'as pas un orgasme, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ne te sens pas obligé de simuler. Ça, vous pouvez lui dire. Non?
Je peux lui dire.
Voilà.
Lui dire ça, mais j'évite que ça nous amène à des longs débats qui ne vont pas nous arranger, en fait.
Voilà. Alors, ensuite, il y a une chose dont j'ai sous-entendu ça dans ce que disait Caroline, c'est qu'il y a des femmes qui disent, moi, j'ai besoin de simuler un orgasme pour faire monter mon excitation. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, moi je connais une dame, elle me disait, moi j'ai mis des années à découvrir mon mode d'emploi, je simule deux fois l'orgasme et comme ça j'en ai un troisième. Donc ça peut être une auto-excitation, c'est pas forcément pour vous mentir. Et puis les femmes, elles n'ont pas un orgasme à chaque fois. Les études montrent qu'en moyenne, une femme a un orgasme une fois sur deux et c'est pas parce qu'elle en a qu'elle est forcément frustrée. Donc votre amie, elle est peut-être très épanouie même si elle n'a pas un orgasme à chaque fois.
Et Chris Matt, il nous reste très peu de temps, mais en tout cas, est-ce que vous êtes prêt à aller lui en parler justement pour un petit peu rétablir les choses?
Je n'ai pas le choix que d'avoir le courage de lui en parler et ça pourra nous arranger.
Et dernière remarque, ce qui compte dans la sexualité, c'est le bonheur partagé, c'est pas l'orgasme. Hein. Je tiens à le dire.
Très bonne journée à vous, Chris Matt, au Congo. Et merci beaucoup, docteur Catherine Solano, pour toutes ces réponses à nos auditeurs. On va vous retrouver jeudi prochain pour d'autres conseils et toutes vos questions. Eh bien, vous, mesdames, messieurs, vous pouvez nous les adresser sur la page Facebook de Priorité Santé. À la semaine prochaine, Catherine.
À bientôt, Caroline. Et à bientôt à tous nos auditeurs.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous allons parler du bégaiement, prise en charge, rééducation. Vos questions, 33 1 84 22 75 75. À demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.